affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps jusqu'à la Renaissance et partir à la rencontre de trois femmes exceptionnelles qui s'autorisèrent, à une époque où ça n'était pas forcément bienvenu, à damer le pion aux hommes et à vivre leurs passions amoureuses jusqu'à en perdre la tête. Et malheureusement, perdre la tête, ça ne fut pas au figuré, puisque ces trois femmes furent finalement décapitées pour adultère. Et décapité, c'est également le titre sobre et percutant du livre qu'Elisabeth Crouzet-Pavant vient de nous présenter aujourd'hui. Alors Elisabeth Crouzet-Pavant est professeure d'histoire médiévale à la Sorbonne et elle est co-auteure donc avec le médiéviste Jean-Claude Mère-Vigueur de ce livre sous-titré « Trois femmes dans l'Italie de la Renaissance » et édité chez Albin Michel. Elisabeth Crouzet-Pavant, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes également correspondant français de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et c'est en partie donc à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui pour parler de ces trois femmes au destin tragique et finalement assez peu commun, au sens où elles avaient un statut exceptionnel socialement, mais aussi au sens où leur crime, finalement, si crime il y a, n'était pas puni de mort à cette époque. Alors, avec vous, nous allons essayer de comprendre pourquoi elles ont finalement été condamnées à mort et pourquoi c'est les grands seigneurs qui étaient leurs époux, au lieu de dissimuler leur cocufiage et leur malheur, ont décidé d'étaler leur petite misère publiquement. Alors, avant peut-être de parler de ces trois femmes, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez eu l'idée, comment est né ce projet de livre ?
Il y a comme nous l'expliquons dans l'introduction même de cet ouvrage, c'est une intuition au départ qui a en quelque sorte enclenché cette enquête. En effet, nous connaissions chacune de ces trois femmes individuellement, d'ailleurs souvent plus pour des raisons lyriques que pour des raisons scientifiques ou historiques, puisqu'à chacune de ces trois femmes avait été consacré un, voire plusieurs opéras. Et puis, il nous est apparu qu'en fait, ces trois femmes étaient décapitées, connaissaient le même sort tragique, le même destin poignant. En fait, en un laps de temps assez réduit, puisqu'il s'agit d'un peu plus de 30 ans. Donc le fait que trois femmes, épouses de très grands seigneurs de l'Italie du Nord, soient décapitées en un peu plus de 30 ans, alors que, comme vous l'avez dit, tel n'était pas le châtiment qui était prévu pour les femmes adultères, nous a semblé être vraiment un élément étonnant. Et ainsi, l'enquête a-t-elle été lancée ? Il s'est agi vraiment de comprendre pourquoi étaient advenues ces trois exécutions, ces trois décapitations en un temps tout de même réduit, hein, puisque nous sommes fin 14e, début 15e siècle.
D'accord. Alors, comment les avez-vous découvertes ? Donc, à travers les opéras, c'est ça ?
Non, je plaisante un peu. Je plaisante un peu en disant qu'on les connaissait d'abord par les opéras, parce qu'il y a bien sûr ce magnifique opéra, surtout celui qui est consacré à Beatrice di Tenda. Donc non, nous les connaissions aussi par les sources, et c'est dans la lecture des sources en fait qu'est apparu ce fait qui était resté jusqu'alors en quelque sorte ignoré des historiens, le fait que ces trois morts constituaient en quelque vraiment une série. Hein. Mmh. Et c'est la série qui nous a conduit à nous interroger et à mener les investigations dans les sources.
D'accord. Et comment avez-vous eu, vous, personnellement, l'idée de réunir ces trois femmes ? Comment les avez-vous découvertes, finalement ? C'est par hasard ? C'est par connaissance déjà initiale du
je vous l'ai
de
dit,
leur
c'est,
cas
c'est, les cas étaient connus individuellement, mmh. mais c'est vraiment en mesurant que ces décapitations, en fait, advenait dans la même séquence historique. Et Il y a là, si vous voulez, quelque chose qui était vraiment étonnant. Donc, en fait, une sorte d'intuition est née en découvrant que ces trois morts étaient advenus pratiquement dans le même temps. Il ne pouvait pas s'agir d'un hasard.
Un hasard, oui. Et comment expliquer alors que ce ne soit pas un hasard? Parce que néanmoins, il y a très peu d'années entre les deux dernières, très peu d'années d'écart, c'est 1418 je crois et 1425. La première, c'est quand même 1391. Il y a quand même un laps de temps qui est significatif là.
Oui, mais enfin nous sommes quand même dans un peu plus de trois décennies. Nous avons trois très grands seigneurs, parmi les seigneurs les plus puissants de l'Italie du Nord. Et nous avons trois destins qui échappent aux règles habituelles. Et c'est là vraiment la principale source, si vous voulez, de notre curiosité. Pourquoi ont-ils choisi, vous l'avez dit, ces seigneurs, de dévoiler leur infortune? Pourquoi ont-ils révélé une situation conjugale qui n'était pas pour eux la plus honorable?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter chacune d'entre elles afin que les auditeurs de Canal Academy fassent connaissance avec ces personnages pour qui vous avez développé vraiment une connaissance, une familiarité intime, parce que vous les traitez comme des personnages de roman, comme des personnages de polar presque.
Oui, l'idée de
donc
ce livre, c'est vraiment
Vous avez fini par les connaître, mais nos auditeurs...
Oui.
Pas encore.
L'idée de ce livre, c'est en effet de mener une enquête qui a été une sorte d'enquête quasi policière, et donc de tresser ensemble ces trois destins, de créer un objet historique qui est une sorte de biographie collective, mais renvoyant donc à une histoire des femmes de la haute aristocratie, de l'aristocratie seigneuriale, dans ces années. La première s'appelle Agnès Visconti, donc elle est née dans la famille des ducs de Milan, et elle est mariée très jeune à l'héritier de la seigneurie Gonzague, donc à la seigneurie de Mantoue. La deuxième, qui est Béatrice di Tenda, et c'est la deuxième, nous ne sommes absolument pas sûrs qu'elle ait été vraiment adultère. Il s'agit sans doute, très probablement, donc d'une accusation qui a permis à son époux de se débarrasser d'elle. La deuxième, Beatrice di Tenda, est mariée avec Filippo Maria Visconti, donc un autre duc de Milan, et c'est son troisième mari, avec une très forte différence d'âge entre l'épouse, qui est vraiment une matrone,
qui a plus de
40 ans, et son mari, donc beaucoup plus jeune. Et là, on est dans un couple où les âges sont complètement inversés par rapport à la norme. Et puis, la troisième...
Pardonnez-moi, je vous une incise, mais elle est aussi dépositaire d'un très très vaste domaine, c'est-à-dire elle a une puissance...
Considérable
par rapport à son mari, peut-être.
Absolument, qu'elle tient de son deuxième mari, qui est un des grands condottiers de l'Italie de la fin du XIVe et du XVe siècle, qui est donc son deuxième mari, et dont elle hérite à la fois des terres conquises en Milanais, un domaine considérable, un trésor de guerre constitué grâce aux razzias, grâce aux soldes qu'avait accumulé ce condottiere, et donc une armée aussi, tout un capital d'argent, d'hommes de guerre et de terre qui constitue sa dot et qui explique que le duc de Milan, l'héritier qui est alors extrêmement affaibli, qui a besoin de reconquérir ses territoires, qui explique que ce duc de Milan va en fait choisir de l'épouser. Hein. C'est donc sa dot qui explique l'écart social tout de même qui existe et l'écart d'âge qui existe entre les deux conjoints. Et donc la troisième, c'est Parisina Malatesta, jeune...
C'est la plus jeune.
La plus jeune, enfin dans notre chronologie, oui. Qui épouse le seigneur de Ferrare et qui est donc la deuxième épouse de ce seigneur de Ferrare.
D'accord. Alors, votre livre, donc de manière générale, donc d'abord évidemment présente trois femmes exceptionnel, mais il contribue aussi peut-être à jeter un éclairage sur l'histoire des femmes de cette époque, ce qui n'avait peut-être pas encore été fait jusqu'à maintenant, parce que plusieurs fois dans votre ouvrage, donc coécrit avec Jean-Claude Mervilleur, vous répétez que cette période est essentiellement vue comme une période d'hommes, en fait, une période masculine. Et là, vous parvenez à jeter un éclairage nouveau, non ?
Oui. Il y a deux séries peut-être de faits à éclaircir. D'abord, donc, nous nous situons fin 14e, début 15e siècle, c'est-à-dire au moment où l'Italie est en train donc, de voir partout s'installer le régime seigneurial et où donc, nous sortons de l'âge communal, un moment de l'histoire politique d'Italie qui est en quelque sorte caractérisé par une sorte de domination masculine absolue dans tous les leviers du pouvoir, à tous les échelons du pouvoir. L'Italie communale est un monde, j'entends politiquement, absolument sans femmes. Hein. On ne trouve aucune femme vraiment dans les palais publics. Elles sont même le principal magistrat de la commune, qui est le podestat, et qui est là pour... En mandat, qui a son mandat qui dure un an, en fait, ce magistrat n'a même pas le droit d'avoir son épouse avec lui durant la durée de son mandat. Donc, auparavant...
Pour quelle raison, pardonnez-moi ?
Parce que c'est, en quelque sorte, il devait sans doute se consacrer, pensait-on, à la chose publique. Hein, et donc, un monde sans femmes. Et...
Et c'était suivi ? Est-ce qu'on sait si c'était suivi ?
Oui, bien sûr. On voit les podestats arriver dans ces villes de l'Italie communale avec une suite de notaires, de juges, d'hommes d'armes, etc., mais pas de femmes. Je n'exclus pas qu'ils aient reçu quelques visites de prostituées le soir dans les palais publics. Hein, mais là,
des épouses légitimes.
Voilà, là n'est pas la question. Donc, nous sortons d'un monde politique qui est un monde masculin. Et la période qui est celle qui était étudiée dans cet ouvrage, en général, était aussi de la même façon considérée comme une période où les femmes ne jouaient aucun rôle. L'historiographie a tendance à dater de la Renaissance déjà installée, c'est-à-dire de la fin du 15e ou du début du 16e siècle, la montée en puissance des femmes dans la sphère politique ou dans la sphère culturelle. J'entends bien sûr des femmes de cette aristocratie seigneuriale. Donc si vous voulez, ce qui nous a beaucoup frappé dans cet ouvrage, dans cette enquête, c'est que bien avant ces figures en quelque sorte iconiques de la Renaissance au féminin, que sont Isabelle d'Este ou Éléonore d'Aragon, il y avait des femmes déjà qui jouaient un rôle considérable, c'est ce que nous montrons, au plan économique, au plan politique et au plan culturel, dans ces seigneuries qui sont en train de se constituer partout dans l'Italie du Nord et du Centre à cette époque.
Alors, la question, c'est comment ont-elles acquis justement cette capacité ? Vous parlez de la duxio à un moment, qui est en fait une espèce de phénomène qui permet à la femme de devenir l'égale symbolique de son mari, en tout cas. C'est cette cérémonie qui lui donne un statut qui lui permet d'agir à l'égal quasiment de son époux. En tout cas, d'hériter, d'être dépositaire du pouvoir de son époux.
Alors, la duxio est une cérémonie qui appartient au cérémonial, au rituel extrêmement complexe du mariage en Italie à cette époque. L'adduxio, c'est la procession qui conduit la nouvelle épousée, la jeune femme, au domicile de son mari. Alors, dans le cas de ces femmes, puisque nous avons des alliances qui se nouent à un niveau régional, l'adduxio est un cortège qui se déploie là géographiquement, puisque l'adduxio, par exemple, dans le cas d'Agnès Visconti, va de Milan, sa ville de résidence, à Mantoue, qui va être sa ville d'épousée. Donc, l'adduxio fait partie des rituels du mariage. Or, ce que nous avons découvert, et le cas d'Agnès Visconti l'illustre parfaitement, c'est que cette duxio, ce cortège, chargeait vraiment de sacralité la jeune épousée et lui permettait en quelque sorte, symboliquement, de prendre possession des territoires qui n'étaient pourtant pas les siens, hein, mais qui étaient les territoires sous la domination de son mari. Mais de la sorte, tout de même, symboliquement, elle se trouvait associée à la souveraineté de son mari. Et vraiment l'objet d'étonnement pour nous a été de voir que ces femmes, et donc nous sommes à la fin du XIVe siècle, ces femmes, lors de l'adduction, lors de la procession de mariage, avancent sous un dais, hein, qui est donc ce qui leur confère de la sacralité. Le même dais sous lequel avance le roi de France lors des entrées solennelles. Donc les archives ont révélé ce qui peut sembler être un détail qui était totalement inconnu des historiens de l'Italie du temps, mais qui n'est pas pour nous un détail, hein, puisque c'est vraiment un instrument d'honneur et l'instrument qui confère de la sacralité à la jeune épousée.
C'est surtout que c'est un déclic, non ? Enfin, c'est une cheville, un passage dans une époque extrêmement masculine et fermée aux femmes à une époque où, au contraire, la femme prend du pouvoir. Comment c'est opéré ?
Un des signaux.
Mais comment ça s'est opéré, concrètement ? Est-ce que c'est l'Église qui a décidé que la femme devait avoir plus de représentation ?
Certainement pas l'Église, hein, puisque surtout en Italie où les rituels du mariage sont vraiment très peu christianisés. D'ailleurs, dans la description des cérémonies de mariage de ces femmes, on peine même à voir une messe être célébrée. Hein, mais il y a là rien d'étonnant. L'Italie du XIVe et du XVe siècle, y compris dans l'aristocratie urbaine, tend à ne pas vraiment observer ce qui est prévu par l'Église. Non, pourquoi cette évolution ? Pourquoi cette sorte d'entrée des femmes dans la sphère publique ? Enfin, des femmes de ces seigneurs dans la sphère publique. En fait, il nous a semblé que se constituait alors le couple. Que ces seigneurs qui, jusqu'alors, avaient un pouvoir qui se transmettait, d'ailleurs souvent très difficilement, vaille que vaille, à des héritiers souvent illégitimes, ou qui transmettaient leur seigneurie en la divisant entre plusieurs héritiers, commencent à instituer un autre modèle de fonctionnement qui a pour source le modèle monarchique, en fait. Hein, donc, il y a une sorte de volonté d'imitation du modèle monarchique, et dans le modèle monarchique, le couple joue une importance particulière.
Pour la lignée ou...
Pour la lignée, mais pas seulement. Il y a une sorte de fonctionnement. Le couple est aussi l'instrument par lequel le pouvoir se met en scène et se solennise en quelque sorte. Donc il nous semble que c'est par ce biais, par cette évolution en fait du pouvoir et du régime seigneurial que les femmes commencent à acquérir cette importance. Alors ce qu'il y a de tout à fait singulier pour Parisina ou pour les autres, c'est qu'en fait, à la différence de ce qu'on peut observer par exemple dans le royaume de France à la même époque, ces femmes n'ont aucune délégation officielle juridique de pouvoir. C'est-à-dire, elles ne sont pas régentes, elles n'ont pas la lieutenance, mais elles n'ont en général pas de délégation officielle du pouvoir. Mais il n'empêche qu'elles commencent à exercer ce pouvoir aux côtés de leur mari. Donc un vrai rôle politique, un pouvoir au féminin. Mais ce pouvoir n'est pas que politique. Ce pouvoir, il se manifeste aussi dans la sphère culturelle, artistique, par les mécanismes de la commande. Oui, parce que ces femmes, en réalité, jouent un rôle qui est considérable en matière économique, parce qu'elles disposent de ressources qui sont extrêmement importantes.
Je vous interromps un instant pour vous lire. Donc, ce n'est pas une offense, j'espère. Donc, on va lire un extrait donc de cet ouvrage Décapité, sous-titré donc Trois femmes dans l'Italie de la Renaissance, donc par Elisabeth Crouzet-Pavant et Jean-Claude Mervilleur. Nous aurons peut-être à dire un mot ensuite sur Jean-Claude Mervilleur qui vous a accompagné dans ce travail. Mais pour illustrer ce que vous venez de dire donc sur le pouvoir économique social de ces femmes, je vous cite, donc vous dites à la page 187: intendantes actives, placées à la tête d'une véritable entreprise qui nourrissait, habillait, chaussait des dizaines de personnes, ces femmes, même si elles ne bénéficiaient que d'une simple cassette, n'en disposaient pas moins d'un pouvoir financier considérable et d'une vraie liberté, puisqu'elles géraient, avec une petite armée de serviteurs, un budget considérable. On nous dira que cette liberté concernait au premier chef les ustensiles de cuisine, les tentures, les draps, les étoffes de vêtements, mais ce serait méconnaître l'importance de la culture matérielle que d'ignorer combien l'usage des objets est riche de sens. Et vous développez ensuite l'importance justement de tous ces facteurs. Mais voilà, donc ça illustre à mon avis ce que vous dites, et vous soulignez ensuite que Parisina elle-même avait créé une espèce de mini-cours au sein de la cour, où elle donnait un peu le là des modes, des tendances, si on pourrait dire.
Absolument.
Aujourd'hui.
Et je crois qu'il faut vraiment insister sur ce rôle économique, sur ce pouvoir économique des femmes qui est à l'ordinaire assez méconnu. Ces femmes, en effet, d'une part, sont riches. Riches parce qu'elles arrivent avec des dots qui sont absolument considérables. Mais d'autre part, elles ont à gérer aussi des maisonnées. Or, une maisonnée seigneuriale au début du XVe siècle compte au moins une centaine de personnes qui vivent là à demeure, qu'il faut donc vêtir, nourrir, divertir. Donc, les ressources de ces seigneuries, qui sont des ressources considérables, sont mises à la disposition de ces épouses, qui donnent donc le ton et qui imposent des modes et des goûts. Alors, le cas de Parisina est le mieux éclairé, le mieux documenté. Pourquoi ? Parce qu'on a un registre de dépenses de plusieurs centaines de folios et qui nous permet donc de suivre vraiment au jour le jour les ordres d'achat que passe Parisina. Et on s'aperçoit en effet qu'elle passe des commandes, alors non seulement dans sa ville de Ferrare, mais qu'elle a toute une série d'intermédiaires qui lui procurent des objets précieux, des épices, un perroquet, des produits de toilette, mais aussi des kilomètres de soie raffinée à Venise et à Milan. Donc il y a là vraiment, si vous voulez, une richesse qui repose, bien sûr, qui fait signe vers la richesse de ces seigneuries italiennes. Lorsque l'on regarde les inventaires de ces maisons princières, on ne peut être que frappé par l'extraordinaire richesse accumulée en quelques décennies. Et bien sûr, dans le cas de ces femmes aussi, ces richesses servent évidemment à financer ce qui est une sorte de petite cour qui se constitue autour d'elle, parce que début XVe siècle, nous sommes au moment où la nouvelle culture, l'humanisme, est en train de faire son apparition et de devenir ce qu'est l'humanisme, c'est-à-dire une culture à l'usage des dominants. Et dans le cas de Parisina, là encore, c'est vraiment une petite cour avec des esprits frottés d'humanisme qui se réunit autour d'elle, où donc on parle, bien entendu, des auteurs alors en vogue, où on fait de la musique. La musique, là aussi, de la façon dont on commence à la faire au début du XVe siècle.
D'accord. Alors là, on vient de voir donc Parisina qui instaure donc des modes, lance des modes, dicte un peu une loi, encore une fois, oui, sur les tendances. Il y a un autre personnage qui est Béatrice, qui elle, alors je ne sais pas si elle est aussi bien documentée, mais qui a cette particularité d'avoir une puissance propre. Est-ce qu'on pourrait parler un peu d'elle, justement? Parce qu'elle arrive avec la gestion de villes entières et de villages ou de régions. C'est très, très important. Elle est l'équivalent d'un seigneur, en fait.
Oui, absolument. Parce qu'elle a donc hérité de son deuxième mari cette seigneurie que ce mari s'était taillé par les armes au moment où le Milanais est en quelque sorte dépecé par les condottières. Alors, Béatrice est malheureusement moins bien documentée que ne l'est Parisina. Toutefois, on peut suivre vraiment, en quelque sorte, sa dépossession. Béatrice a un destin qui est doublement malheureux, doublement poignant, parce que non seulement elle connaît cette fin terrible, comme les deux autres femmes qui sont l'objet de notre livre, mais avant de connaître cette fin tragique, elle est peu à peu dépossédée. Parce qu'au début de son mariage, comme son duc de Marie a besoin d'elle, de ses finances, de son argent et de ses troupes, il lui laisse encore la possibilité d'administrer les villes qu'elle possédait, qu'elle contrôlait. Et puis, peu à peu, à mesure que l'équilibre des forces s'inverse entre les deux conjoints, elle va être dépossédée, hein, c'est-à-dire dépouillée, oui, absolument dépouillée, c'est-à-dire que peu à peu, son mari va lui reprendre hein, les villes dont elle était maîtresse, en même temps que c'est lui qui fait usage des troupes qui étaient les siennes, et ces troupes donc sont mises au service du duc de Milan qui s'en sert pour reconquérir le Milanais. Donc on passe d'un moment dans l'histoire de Béatrice où celle-ci, veuve, est certainement une des héritières les plus puissantes et par là même les plus convoitées de l'Italie du Nord, à un deuxième moment, un peu plus tard, où elle se retrouve vraiment condamnée à vivre loin de son mari, sans pouvoir, dans les différentes résidences hors de Milan que les ducs possédaient.
Alors, petite question vraiment extrêmement, comment dirais-je, anecdotique, mais comment se fait-il qu'une femme aussi forte, aussi sans doute intelligente, se soit associée, se soit mariée avec un personnage sans se douter peut-être qu'elle allait se faire dépouiller? Pourquoi n'est-elle pas restée veuve, par exemple, à la tête? Pourquoi fait-elle ce choix de se remarier?
Parce que il est quand même difficile de refuser d'épouser le duc de Milan. Même lorsque ce duc...
Même quand on est puissante comme ça et quand...
Oui, parce que de surcroît, sa puissance ne pouvait être que menacée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que son précédent mari, Condottiere, s'était taillé, en quelque sorte, avait sa seigneurie, avait en quelque sorte cannibalisé le Milanais. On pouvait donc penser que tôt ou tard, le duc de Milan allait remettre la main sur ses territoires. Donc, malgré tout, elle est puissante, elle est riche, elle a des hommes d'armes, mais elle est tout de même dans une situation un peu sociale et juridiquement fragile. Donc, il y a une sorte d'alliance des forces et des faiblesses hein, qui se fait naturellement avec le duc de Milan. Et puis, en même temps, c'est quand même une ascension sociale extraordinaire pour cette femme qui était née dans une famille de la petite aristocratie hein, et qui, donc, finit comme l'épouse du duc de Milan. Ouais. Elle est un peu différente
bon,
des... Oui, comme vous. elle est à cet égard un peu différente des deux autres, hein, qui, elles, sont nées vraiment dans des familles de l'aristocratie seigneuriale. Ouais. Elle a une sorte d'ascension sociale qui se fait par ses mariages successifs.
D'accord. Et peut-on imaginer, c'est peut-être trop anachronique, mais qu'il y ait eu une forme d'idylle, d'affection réelle au début, une ébauche de sentiments dans leur relation? Ou alors est-ce que c'est exclusivement un rapport de force alors,
entre,
et d'intérêt?
Entre Béatrice et son mari...
Vu la différence d'âge,
Il est permis d'en douter pour une série de raisons. D'une part, la différence d'âge, donc c'est quand même une union qui paraît être une union d'abord politique, même si toutes les unions sont politiques à ce moment et à ce niveau de la société. Et puis, disons-le, malgré tout aussi, son mari préférait les hommes. N'aidait pas peut-être aussi à la consolidation du couple.
Certes.
C'est ce que disent tous les chroniqueurs du temps, y compris son biographe. Hein, lui, un mot un peu plus couvert. De toute façon, les sentiments ne sont pas, je dirais, en quelque sorte de mise dans les couples qui se forment. Hein. Ce sont des unions qui se forment pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. Il y a un jeu diplomatique complexe, cette fois-ci à l'échelle de l'Italie. Et les différentes puissances, la papauté, la République de Venise, etc., interviennent aussi dans la formation de ces alliances. Donc il va de soi qu'à ce niveau de la société, les sentiments n'ont rien à faire dans ces alliances.
C'est-à-dire que là, c'est ce que vous... Oui,
il y a des cas...
L'Église encourage à une forme de...
Oui,
de complicité au moins. Quoi,
L'Église, assurément. Et puis, il y a aussi, sans doute en est-il de même dans les mariages bourgeois au XIXe siècle, hein, il y a aussi des couples qui fonctionnent. On en a quelques exemples qui apparaissent dans les sources. C'est-à-dire des couples qui semblent avoir été unis, avoir même éprouvé sans doute, dans la mesure où il est possible de tirer des conclusions quand même de sources qui sont très arides, qui semblent avoir éprouvé même des sentiments. Mais là, on est ensuite dans l'ordre un peu du hasard, rencontre des individus, de cette alchimie. Mais les mariages ne sont pas faits pour susciter des sentiments. Et quant au mari, de toute façon, il pouvait trouver à exprimer des sentiments ou à assouvir d'autres pulsions, parce que tous ces hommes, ou presque, tous ces seigneurs sont pourvu d'un nombre vraiment très élevé de maîtresses, c'est-à-dire que tous pratiquent une polygynie qui est, semble-t-il, de mode, enfin qui est aussi une pratique culturelle.
D'accord.
Qui marque aussi, en quelque sorte, leur puissance.
Alors, si vous voulez bien, nous reviendrons après sur les notions, justement, d'amour ou d'affection au sein de ce genre de couple, et même au sein de cette société tout entière, parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont fait parfois écarquiller les yeux, et qui expliquent bien à quel point nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle dans un monde complètement différent, et qui serait quand même un peu absurde d'essayer de plaquer nos propres grilles affectives sur l'époque du XIVe ou XVe siècle. Donc là, je pense qu'il faudra faire le point pour les auditeurs de Canal Academy. Mais j'aimerais qu'on creuse encore un tout petit peu la question justement de cette arrivée des femmes dans la société. Là, on vient de parler de trois cas exceptionnels par leur puissance, leur envergure sociale et politique. Est-ce vrai également à un moindre niveau aristocratique, et est-ce vrai dans les strates sociales inférieures comme la bourgeoisie par exemple? Est-ce qu'on a des documents, des ménagiers, des capitulaires quelconques qui nous permettent de savoir si les femmes bourgeoises avaient un rôle semblable à celui qui est joué par ces grandes aristocrates?
Certainement pas. Certainement pas, y compris dans l'aristocratie urbaine, dans les élites urbaines, qu'il s'agisse d'élites aristocratiques ou d'élites bourgeoises. Alors, ces femmes peuvent, là aussi, être très riches. Mais il faut bien voir que le statut juridique de la femme, de l'épouse, hein, est dans l'Italie du temps, à Florence, à Venise, à Milan, un statut qui n'est quand même pas très favorable. Hein. Donc, ces femmes de l'aristocratie seigneuriales sont tout à fait atypiques, et leur montée en puissance est liée au système de pouvoir, hein, à ce système de pouvoir qu'est la seigneurie. Alors quant aux femmes du peuple, hein, des milieux populaires, bien entendu, au contraire, on date plutôt de la fin du Moyen-Âge, leur mise à l'écart encore plus nette, hein, de la sphère publique, des métiers, etc. Donc, ces femmes sont tout à fait exceptionnelles.
D'accord. Alors, en parlant de ces femmes exceptionnelles, vous avez mené donc une enquête, on peut dire historia, puisque c'est l'enquête, inquisitio aussi, vous évoquez, ça ressemble aussi à une procédure inquisitoriale, cette enquête, c'est peut-être plus de ça d'ailleurs que vous avez... Non, c'est une historia,
oui, enfin, voilà,
c'est une enquête policière.
Enfin, il y a quand même des témoins aussi qui...
Est-ce que ces femmes, est-ce qu'on est certain de la culpabilité, encore une fois, de chacune? Apparemment, il y en a au moins une... Ou c'est pas absolument...
Oui, alors la deuxième, Béatrice, très certainement, n'a pas eu de relation coupable, entre guillemets, avec celui qui périt en même temps qu'elle. Bon, semble-t-il, c'était davantage un compagnon un peu lui tenant un peu compagnie dans son espèce d'exil, hein, itinérant d'un château du Milanais à l'autre. En revanche, pour les deux autres, l'adultère est tout à fait avéré. Alors, Agnès, la première, est la seule pour laquelle nous avons un procès. Et ce n'est évidemment pas un hasard. On est dans les années 1390. Le seigneur de Mantoue, son mari, a un pouvoir qui n'est pas encore aussi affirmé que sera celui
des deux autres.
Des deux autres, certainement. Et donc, il doit passer par la procédure, par ce procès, alors qui est un procès tout à fait d'exception, etc. Mais il y a tout de même une procédure judiciaire qui permet de faire condamner Agnès. La fin était connue d'avance, hein, je le répète, c'est vraiment une procédure tout à fait expédiée et expéditive. Mais tout de même, il y a une procédure. Et donc, nous avons les actes de ce procès, nous avons les témoignages. Et l'adultère, vraiment, ne fait aucun doute. Quant à Parisina, la troisième, c'est exactement la même chose. Là, nous sommes donc un peu plus de 30 ans plus tard. Le mari n'a plus besoin de procès pour se débarrasser de sa femme et la faire exécuter. Mais le scandale est avéré. Pourquoi le scandale, d'ailleurs, est-il aussi grand, aussi manifeste et connu, d'ailleurs, ensuite à l'échelle de l'Italie, c'est que Parisina a choisi comme amant un de ses beaux-fils, hein, c'est-à-dire un des fils illégitimes de son mari, qui d'ailleurs avait son âge, hein, plus ou moins. Et donc, le scandale est très grand du fait aussi, évidemment, de l'homme qu'elle a choisi.
Oui. Alors, je ne suis pas avocat, et de toute façon, il est un peu tard, mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu elle-même plaider le fait que leur époux était incroyablement plus coupable qu'elle et que de fait il multipliait les conquêtes. Il n'y a aucune parité, bien que le mot encore une fois est sans doute anachronique, mais est-ce qu'elle ne peut pas dire en face également il y avait rupture des accords du mariage?
Non, parce que il est alors admis, là encore, dans ce milieu.
Même aux yeux de l'Église, par exemple ou...
Mais si oui, là.
Juridiquement, je ne parle pas dans les coutumes, mais d'un point de vue du droit pur.
Mais juridiquement, on ne connaît pas à ce moment-là de procédure de séparation dans ces milieux parce que l'homme aurait trompé sa femme. Ouais. Il y a là, si vous voulez,
une pratique sociale
qui est absolument couramment admise. Et il faut, c'est même plus que qu'admis. Il faut comprendre que ces palais, que ces maisonnées sont peuplés par les enfants illégitimes du Seigneur. Enfants illégitimes nés de
X rencontres, X maîtresses,
plus ou moins stables, etc. Et Parisina, par exemple, élève certaines des filles illégitimes de son mari. Elles sont même logées dans ses appartements où on la voit de la même façon s'occuper de vêtir certains, c'est-à-dire de commander des pourpoints, des manteaux, des vestes, etc. Pour certains des fils illégitimes de son mari. Il était tout à fait normal pour une épouse de ce rang de prendre en charge dans la maisonnée, y compris les enfants illégitimes du mari. Et il y en a pour en particulier le mari de Parisina, mais ce n'est pas le seul exemple, certains de ces seigneurs ont plusieurs dizaines d'enfants illégitimes, mais qui d'ailleurs constituent un capital social tout à fait intéressant, parce qu'on les voit marier les garçons, les filles.
C'est une nébuleuse d'alliance, c'est ça ?
Une nébuleuse d'alliance, alors pas évidemment au même niveau que les enfants légitimes, mais tout de même.
Mais ça maille le terrain régional.
Absolument, déjà à un niveau social qui est assez élevé. Et la plupart de ces enfants illégitimes sont mariés, hein, ne sont pas destinés à rentrer dans les ordres.
Alors, en lisant votre livre, j'ai eu l'impression qu'on avait quand même au minimum un procès, qui est un procès de Moscou, c'est complètement n'importe quoi, et quasiment deux assassinats purs et simples. Quoi, parce qu'en fait, quand on voit la manière dont c'est décidé, et quand on compare à la manière dont l'adultère est jugé pour les femmes, je ne parle pas des hommes, donc pour les hommes c'est une amende, si j'ai bien suivi, pour le commun des mortels, mais pour les femmes, ça n'est même pas une amende. Elles sont décapitées. Comment ça se fait ?
Assassiner,
cette disproportion ?
Absolument. Et si vous voulez, ce qui est d'extraordinaire, c'est que...
C'est pas un procès, c'est pas une exécution.
Non,
c'est
d'une
meurtre,
part,
c'est...
les statuts urbains qui règlent ce genre de cas... souvent n'envisage même pas l'adultère féminin. Tant la chose paraissait improbable, inenvisageable. Lorsqu'ils le font, ils prévoient que la femme perdra sa dot, etc. Et surtout, si vous voulez, à ce niveau de la société, Il était très facile, au total, de se débarrasser de sa femme sans difficulté. Presque tous ces hommes et ces femmes étaient liés par la parenté. Mmh. Donc, une procédure d'annulation de mariage aurait pu aboutir. Et puis, on a d'autres exemples révélés par les sources qui montrent qu'il y avait encore des façons plus expéditives et plus secrètes, plus clandestines de se débarrasser d'une épouse, c'est-à-dire de l'empoisonner. Malgré tout, l'empoisonnement est assez fréquent dans l'Italie des 14e et 15e siècles. Donc, il est clair qu'elles sont assassinées, mais il est clair aussi qu'il y a des raisons politique à ce qu'elle soit assassinée, à ce qu'elle soit décapitée. Hein, qu'il y a donc des vraies raisons qui expliquent cette décision tout à fait surprenante, hein, sensationnelle, extraordinaire, au sens premier du terme, des trois maris.
Alors, autre question un peu périphérique dans cet état d'esprit, mais comment était appliquée la peine de mort à cette époque, pour les droits communs par exemple? Est-ce que c'était quelque chose de généralisé? Est-ce que c'était quelque chose de rare?
En réalité, la peine de mort n'est pas si fréquente que cela, parce que lorsqu'on travaille dans les archives criminelles, on s'aperçoit que très souvent la peine de mort est réservée en fait aux condamnés contumaces.
Ah oui, très bien,
oui. Oui, donc par là même, bon, cela étant, il y a évidemment des pendaisons, il y a quelques bûchers aussi pour des cas particulièrement graves, etc. Mais la peine de mort existe et avec des lieux d'exécution qui subissent une sorte d'évolution au cours de la Renaissance et qui, souvent au départ, sont excentrés, sont hors des murailles pour ne pas souiller en quelque sorte le périmètre urbain avec le sang et qui tendent au cours du XVe siècle à réintégrer la ville. Mais ces femmes, hein, malgré tout, ne sont pas exécutées en place publique. Elles sont exécutées dans le périmètre du palais seigneurial ou d'une des résidences seigneuriales. D'accord. Et elles sont évidemment décapitées, ce qui est, à ce moment-là, comme plus tard, le mode d'exécution noble.
Oui, oui. Alors, à cette nuance qu'elles sont exécutées dans la nuit, d'ailleurs, vos trois personnes-là.
C'est ça.
Il y a un côté un peu honteux quand même dans la
démarche. Voilà, il y a toutes ces trois affaires sont très intéressantes parce qu'on voit bien à quel point on est toujours entre l'ombre et la lumière, la publicité et la clandestinité. Donc, c'est soit à la tombée de la nuit, soit au petit matin qu'on les exécute.
Ce sont des procédés de voyous, là.
Oui.
Ils ne devaient pas se sentir complètement à l'aise. Quand même
Oui, c'est un acte de pouvoir fort, mais en même temps qui va contre toutes les règles. Hein. Mmh. Et donc, par là même, on voit bien qu'il y a certainement, malgré tout, une sorte de volonté de ne pas rendre totalement les choses publiques. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que une partie, sans doute, des archives qui accompagnent ces exécutions a été détruite sur ordre de ces seigneurs. Il y a donc une sorte D'accord. de damnatio memoriae qui opère. En particulier, toute une série de lettres avaient été écrites dans au moins deux des cas pour prévenir les alliés, les parents, la famille, hein, de ce qui s'était passé. Or, ces lettres ont disparu. Et donc, il y a vraiment une damnatio memoriae. Alors, ce qui n'empêche que la nouvelle se répand tout de même très rapidement dans toute l'Italie, parce que là, on
c'est
encore...
C'est à dessein, de toute façon, ils le souhaitent quand même.
Ils le souhaitent, oui, parce que leur honneur doit être en même temps restitué,
et leur puissance, réaffirmée,
et leur puissance réaffirmée. Mais en même temps, il faut tout de même un peu dissimuler, sans doute, les ondes d'ombre, etc. Mais... Et ça montre bien le caractère extraordinaire de ces exécutions. Nous avons trouvé des traces dans les archives les plus singulières, y compris les plus éloignées de ces trois villes, les traces de la diffusion, mais très rapide, hein, de la nouvelle, en particulier pour la mort de Parisina. Vous faisiez allusion tout à l'heure à des livres, à des ménagers. Eh bien, dans un livre de souvenirs de Ricordi, un de ces livres de famille d'un Florentin, il inscrit, mais Et c'est deux jours après l'exécution de Parisina qu'est arrivée à Florence la nouvelle que la marquise de Ferrare avait été exécutée en même temps que son amant. Et il note ça dans son livre, hein, parce que c'est évidemment une nouvelle extraordinaire.
Ouais. Alors justement, vous venez d'évoquer la mort de l'amant. Alors il y a une forme de parité au moins, on peut lui reconnaître cela. Donc on tue les femmes, mais on tue aussi les amants, mais on tue également les servantes qui ont été impliquées. Et l'un d'entre eux tue quand même son fils. Même si c'est un bâtard, c'est quand même son fils.
Oui,
donc ça pose la question des rapports affectifs. On parlait de l'amour tout à l'heure. Et c'est là où on comprend quand même qu'on a quand même deux époques complètement différentes. Parce qu'il ne tue pas que sa femme, il tue tout le monde.
Oui,
y compris son fils.
Il tue l'amant qui était en même temps son fils et qui, mieux que son fils, était l'héritier de la seigneurie. Hein, c'était l'héritier désigné de la seigneurie et il le fait exécuter. Mais en même temps, le fils avait trahi le père, avait trahi le seigneur, avait déshonoré le père et le seigneur. Donc le châtiment devait être à la mesure de la faute commise.
Oui. Alors malheureusement le temps passe, j'aimerais vous poser une dernière question qui résumera peut-être d'ailleurs les principales leçons de votre livre. Est-ce qu'on a tué dans ces trois affaires donc des personnes adultères ou est-ce que l'on a tué des personnes qui entravaient le pouvoir d'un puissant, qui étaient des personnalités gênantes sur un plan politique ?
Non, on tue trois femmes, enfin deux femmes adultères, le cas de Béatrice est un peu différent, on tue deux femmes adultères pour montrer à quel point justement le couple est devenu important pour... ainsi réaffirmer donc le pouvoir du seigneur qui a été en quelque sorte malmené par ses affaires. Donc ces femmes sont en effet devenues en quelque sorte envahissantes, mais c'est parce qu'elles sont envahissantes qu'elles doivent être exemplaires, c'est parce qu'elles assument ces nouveaux rôles qu'elles doivent être plus encore exemplaires et qu'on ne peut pas les faire disparaître de manière subreptice comme on aurait pu le faire un siècle plus tôt.
Mmh. D'accord. Alors, pour vraiment terminer maintenant, quelles sont les grandes leçons, à votre avis, que l'on peut retirer de ces trois histoires particulières sur un plan, si on veut généraliser à une époque, à cette époque ? Quelle est la place de la femme ? Est-ce que ça traduit une montée en puissance de la femme ou est-ce qu'au contraire, c'est une jugulation de son pouvoir ?
Non, pour incontestablement, pour nous, c'est la découverte de la nouvelle puissance, du nouveau rôle des femmes, de l'aristocratie seigneuriale, mais dans la sphère politique, mais aussi, et là j'y insiste, dans la sphère culturelle. Et ça permet de dater une série de phénomènes que l'on connaît pour la fin du XVe siècle ou le début du XVIe siècle, ça permet de les dater en amont, hein, de manière beaucoup plus précise. Et je pense qu'il y a là une autre façon de relire la Renaissance, hein, que grâce à ces femmes, on se rend compte que donc, dès la fin du XIVe siècle, dès le début du XVe siècle, la Renaissance est en marche dans ces seigneuries et que les femmes sont des actrices de premier plan dans cette Renaissance.
Merci beaucoup Elisabeth Crouzet-Pavant, merci d'être venue. Donc, chers auditeurs, cette émission touche à sa fin. Je vous rappelle donc que vous pouvez en apprendre plus en lisant le livre donc coécrit par Elisabeth Crouzet-Pavant et Jean-Claude Mère-Vigueur, intitulé « Décapité », sous-titré « Trois femmes dans l'Italie de la Renaissance » et paru aux éditions Albin Michel. Thank you.